Radio, cité Genève.
Genève internationale. Epiphana Monfau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Cité Genève. Les défis d'informer en contexte de crise, regard croisé sur trois régions en conflit. C'était le thème d'un débat organisé au Club Suisse de la Presse le 16 mai dernier. La détérioration de la liberté de la presse dans les zones de conflit entraîne une peur généralisée, un contrôle accru des médias par des gouvernements autoritaires et une influence croissante des intérêts privés sur l'information. Ainsi, la Fondation Hirondelle, basée à Lausanne, soutient les médias indépendants depuis près de 30 ans dans ces contextes de crise. Les journalistes font face à des pressions, des interdictions et la désinformation est répandue. Des journalistes de la RDC, du Sahel et d'Ukraine ont ainsi adapté leurs méthodes pour maintenir un journalisme équilibré et fiable. Bonjour Pauline Bent.
Bonjour.
Vous êtes responsable de programme Sahel dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, donc Mali, Niger, Burkina Faso. Comment la Fondation Hirondelle soutient-elle les médias indépendants dans votre zone?
Alors déjà, on a nos trois médias, nos trois studios qui sont soutenus donc par la Fondation Hirondelle. Et au-delà de ces trois studios, il y a des réseaux de radio partenaires qui nous relaient, qu'on essaie d'accompagner par de la formation et par de la fourniture de contenu.
Quels sont ces studios?
Donc au Mali, nous avons le studio Tamani, qui est là depuis 10 ans. Au Niger, nous avons le studio Kalangou. Et au Burkina Faso, nous avons le studio Yafa.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles les journalistes font face dans des environnements de conflit comme le vôtre?
Aujourd'hui, l'accès à l'information. L'accès à l'information, c'est devenu très, très compliqué. Soit que ce soit l'accès à l'information publique, les sources qui sont détenues par les acteurs publics qui, voilà, ne veulent pas toujours s'exprimer. Maintenant aussi avec la polycrise ou en fait le conflit, l'instabilité ou l'insécurité qu'il y a dans ces pays, il y a aussi l'accès aux zones maintenant. Donc c'est vraiment maintenant l'accès à l'information sur le terrain. Ça devient très compliqué. On parlait à un moment d'insécurité, mais on voit de plus en plus qu'au-delà de l'insécurité, ce qui est même difficile, c'est le déplacement. Et donc, pour se déplacer aujourd'hui, ça entraîne des mesures qu'il faut prendre et ces mesures engendrent des coûts financiers beaucoup plus élevés que ce qu'il y avait à l'époque. En fait, parfois, on prenait juste une voiture pour aller dans une localité. Aujourd'hui, on vous dit, mais cette localité-là, il vaut mieux aller en avion. Du coup, c'est un coût supplémentaire. Donc, c'est vraiment l'accès. Des effets collatéraux aussi aujourd'hui, quand on a parlé de crise énergétique ou de polycrise à nouveau, pas de courant, ça a un impact aussi sur la capacité de production, ça a un impact aussi sur la capacité à être diffusée par les radios.
Comment, dans ce contexte, vous arrivez à maintenir votre indépendance journalistique malgré les pressions, on va dire, économiques, les pressions politiques?
Je dirais que ce qui sauve pour le moment, c'est qu'on a, premièrement, on a réussi à s'établir comme étant indépendant. Comme je disais, à un moment, même avant cette crise-là, les studios étaient reconnus comme étant des médias qui vont donner la parole à tous les camps. Ça établit la confiance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand il y en a qui veulent un peu mettre la pression ou essayer de nous influencer, ils savent que même eux, ils ont peut-être beaucoup à perdre aussi en essayant de nous influencer. S'ils peuvent nous influencer, ça veut dire que d'autres vont pouvoir nous influencer contre eux. Je pense que c'est aussi une des choses qui fait que finalement, ça maintient un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas contents de la parole indépendante, mais quelque part, ils savent que c'est aussi une garantie pour eux qu'il y ait un média qui soit là, qui est indépendant.
Au cours de cette table ronde, vous avez soulevé le cas de la désinformation. Quelles sont les conséquences justement sur les populations dans ces zones?
Pour moi, les conséquences, elles sont très graves, notamment sur le quotidien. Moi, je dirais vraiment, par exemple, en termes de santé, ça peut être des conséquences très graves de personnes qui vont arrêter, par exemple, d'aller au centre de santé parce qu'ils auraient entendu une information erronée. Ça peut aussi être même sur des questions d'éducation, ça peut être sur des mauvaises pratiques que les gens vont développer en fait au quotidien parce que les informations qui circulent sont pas fiables, sont pas vérifiées. Moi je pense que c'est beaucoup plus risqué même que les fausses informations à caractère, on dira, politique, qui en fait n'ont pas de grands bouleversements sur le quotidien des gens. Elles ont un bouleversement en termes de stress, d'insécurité, parce que les gens ne vont pas savoir où se situer. Mais vraiment, moi, je dirais que c'est tout ce qui touche à la vie, aux questions de vie quotidienne qui sont très, très néfastes pour les populations.
Quels sont les sujets que vous traitez, les thèmes ?
Alors, on traite, par exemple, là, on parlait d'économie, entrepreneuriat des femmes. On traite aussi, même par exemple, de ces questions de solutions alternatives pour l'énergie, les questions de santé. On a, par exemple, au Burkina Faso, une émission qui marche très, très bien, qui s'appelle La Pépinière. Ça, c'est le titre en français. C'est intéressant, cette émission. Pourquoi ? Parce qu'on répond aux problèmes, aux questions que se posent les jeunes parents d'enfants. Parce que vous voyez, avec la situation aujourd'hui dans ces pays, il n'y a plus toujours le suivi conseil qu'on apportait aux femmes enceintes jusqu'au moment où elles accouchent dans les petits centres de santé de proximité. Une émission comme celle-là, ça donne la possibilité aux gens de poser toutes les questions sur l'allaitement, sur la nutrition des enfants, et aussi de se rendre compte que parfois, certaines pratiques qu'ils adoptent ne sont pas forcément favorables à leurs enfants. C'est juste un exemple, mais pour montrer que ça, c'est le type d'émission qui nous rapporte aussi beaucoup de feedback positif à côté des émissions d'information sur ce qui s'est passé dans le pays dans la semaine ou dans la journée.
Vous avez évoqué tout à l'heure des cas de censure dans votre zone, donc dans la zone AES, pourrait-on dire. Comment justement cette censure et les interdictions de diffusion ou de diffusion de sujets affectent la liberté d'expression dans votre zone, justement ?
Alors, bon, vous avez peut-être suivi, il y a beaucoup de médias internationaux qui ont été suspendus dans ces zones-là. Je dirais que beaucoup de journalistes, effectivement, ont des difficultés, surtout ceux qui vont traiter de sujets, disons, sécuritaires, très sensibles. Après, nous, on ne va pas s'interdire de traiter certains sujets, mais on va toujours penser à deux choses. Un, qu'est-ce que ça change pour les gens qui vont nous écouter ? Deux, quel est l'impact ou le risque pour les gens qui nous diffusent ? Parce que nous sommes diffusés par des radios. Donc, si on traite un peu d'une information à la légère, tandis que nous sommes tranquilles dans les studios en capitale, ce sont les radios qui nous diffusent qui vont être inquiétées. Pas forcément par les autorités. Hein. Depuis un moment, bien avant cette succession de, par exemple, de coups d'État, certaines de nos radios partenaires nous disaient déjà en région subir des pressions de groupes armés non étatiques. En fonction de ce qui est dit, donc on a commencé à prendre l'habitude de bien vérifier, de bien faire attention à la manière dont on présente certaines informations pour ne pas exposer sans nous interdire de les diffuser ou de les traiter, mais pensez quand même à la réception de cette information-là.
Comment vous arrivez à maintenir la sécurité donc et la protection de vos journalistes dans ces environnements potentiellement dangereux ?
Nous, c'est vraiment la meilleure, je pense, hein, c'est une conviction personnelle et vue sur le terrain, on peut jamais protéger au point d'empêcher tout problème. Donc, vraiment, pour nous, la meilleure protection, c'est cette histoire de confiance. Il faut que le public ait confiance en nous. Il faut que les acteurs, y compris institutionnels, y compris les militaires, les politiques, les acteurs de la société civile, aient confiance en nous. Parce qu'on compte sur eux, en fait, pour nous protéger de menaces. Jusqu'ici, c'est ça qui nous a sauvés. On espère que ça va continuer à nous sauver parce qu'on n'a pas les moyens d'investir dans les gardes privées ou ce genre de choses.
Et c'est sur ces mots d'espoir que je vous dis merci, Pauline Bent, responsable de programme Sahel dans les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, donc Mali, Niger, Burkina. Belle suite de journée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Merci.